Violaine Desmarais, bonjour.
Bonjour.
La préfète des Alpes de Haute-Provence. Tout d'abord avec vous, j'aimerais revenir bien sûr sur le contexte géopolitique international qui touche actuellement le monde, l'Europe en particulier, avec cette solidarité ukrainienne qui est immense dans les Alpes du Sud. Tout d'abord, combien de réfugiés ukrainiens sont arrivés sur le territoire basalpin ?
Alors nous avons 31 personnes d'Ukraine qui sont arrivées depuis la semaine dernière, avec principalement des femmes et des enfants, des familles, quelques hommes aussi, et notamment des hommes isolés, et qui ont été accueillis dans le département par des particuliers, par des associations, principalement à Castellane et à Sisteron.
Qu'on soit clair, on parle bien de réfugiés, on sait qu'il y a plusieurs régimes qui existent dans l'accueil, il y a la demande d'asile, il y a le statut des réfugiés, il y a la protection subsidiaire aussi.
Alors techniquement, on parle de personnes déplacées, parce qu'on est sur des civils qui fuient la guerre. Mais évidemment, personne ne comprend qu'on ne parle que de déplacés et pas de réfugiés, compte tenu de la violence que vivent aujourd'hui les Ukrainiens sur leur sol. Dans ce contexte-là, on n'a pas d'orientation des Ukrainiens vers une demande d'asile. Ce qui est le cas pour les réfugiés classiques. On est sur un dispositif qui fait qu'aujourd'hui, de toute façon, les Ukrainiens qui disposent d'un passeport biométrique sont déjà en règle pour séjourner sur le territoire français. Ou alors, ils ont des visas de court séjour, comme des touristes hein, du monde entier. Et dans le cas où ça n'est pas rempli, ni le premier critère, ni le second, nous délivrons ce que nous appelons des autorisations provisoires de séjour pour leur permettre de bénéficier des droits associés à ce titre et d'être en France régulièrement. L'Union européenne a décidé de mettre en place un autre dispositif qui est là aussi différent de l'asile, et donc ce qui correspond au statut classique de réfugié. C'est un mécanisme de protection temporaire qui existe depuis 2001 dans l'Union européenne, qui n'avait jamais été activé. Et qui pour la première fois l'est. Ce dispositif qui est en train de se mettre en place et dont va se charger la préfecture des Alpes de Haute-Provence pour les Ukrainiens qui arrivent dans notre département, va permettre aux Ukrainiens de disposer d'un titre de 6 mois, renouvelable jusqu'à 3 ans, et qui vont leur permettre un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire avec les autres titres, notamment la possibilité de travailler.
Voilà, c'est justement la question que j'allais vous poser, parce que c'est vrai, quand on reste sur un territoire pendant plusieurs mois, voire des années, forcément, il y a ce besoin aussi à un moment de pouvoir travailler, de pouvoir avoir une activité professionnelle.
Oui, alors c'est un débat qui existe depuis longtemps sur les deux demandeurs d'asile, j'allais dire classiques, pour lequel ce droit au travail n'est pas toujours ouvert. Là, en l'occurrence, il a été fait le choix en effet d'activer ce dispositif sur lequel nous sommes en train de recevoir les éléments de précision hein, et l'ensemble des droits associés, puisque ce mécanisme a été voté, vous le savez, vendredi au niveau de l'Union européenne, et il y a encore des petits ajustements qui sont en train de se faire.
Et pour les enfants, parce qu'on parle justement des adultes, et pour les enfants en matière de scolarité?
Alors c'est évidemment un point que nous avons regardé dès la semaine dernière avec le directeur académique, mais sans savoir à ce moment-là, ce que je partageais avec les représentants du personnel de l'éducation nationale et des parents d'élèves, c'est que nous ne savions pas où ces Ukrainiens avec enfants et donc ces enfants allaient arriver. Et par ailleurs, s'ils arrivaient, quel serait l'âge des enfants et quelles seraient les nécessités de scolarisation. Même si dans un premier temps, chacun comprend que l'école, qui est un élément extrêmement important, n'était pas non plus la première préoccupation de ces familles qui sont arrivées dans la nuit, parfois la semaine dernière et ce week-end, avec pour première préoccupation de se mettre à l'abri et d'avoir un peu de repos après une traversée de l'Ukraine et des pays qui nous en séparent, assez harassante. En revanche, évidemment, nous avons mis les maires au centre dispositif, comme toujours, et ça nous permet, avec eux, de procéder aux inscriptions scolaires si nécessaire. À ce stade, il est trop tôt pour faire encore une photographie, puisque d'autres familles continuent d'arriver. Ce qui est clair, moi, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous tenons évidemment la promesse présidentielle, et nous avons largement de quoi accueillir d'autres Ukrainiens. 31, je le disais, ont été accueillis, et grâce à l'effort des particuliers, des associations, des collectivités locales, nous avions hier soir environ 200 places pour accueillir. Donc pas de difficulté pour tenir cette promesse.
Est-ce que dans les jours prochains, dans les semaines prochaines, ces 200 places seront pourvues? Est-ce qu'il y aura autant de personnes qui arriveront dans les Alpes de Haute-Provence?
Nous ne le savons pas, évidemment. Nous ne le savons pas. Là, nous accueillons les personnes qui arrivent. Il n'y a pas de quota qui a été arrêté. Et les capacités, vous l'avez vu, d'accueil sont très fortes compte tenu du grand élan de générosité qui s'exprime dans les Alpes de Haute-Provence comme ailleurs en France.
Madame la préfète, hier, c'était la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Forcément, forcément dans les débats, c'est l'égalité salariale qui revient souvent sur le devant des discussions. Et ce sont aussi les violences faites aux femmes. Une femme majeure victime de viol ou tentative de viol toutes les 7 minutes en France. Une femme sur 10 victime de violence dans le couple. Une femme est tuée par son conjoint tous les 3 jours. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, est-ce que le constat est tout autant inquiétant ?
Le constat, il reste inquiétant parce que de toute façon, quand bien même il y aurait une femme victime de violence conjugale dans le département, ce serait trop. Ce que je peux vous dire en termes de statistiques, c'est que en 2021, on a baissé la courbe de l'augmentation de ces violences conjugales. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps, puisqu'on a eu très précisément 367 femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Donc, vous voyez, ça fait un peu plus d'une par jour, alors qu'on était l'année précédente à 356. Donc, ça, c'est une augmentation de 3%, et c'est toujours trop. Mais c'est vrai que la courbe s'est un petit peu infléchie. Alors, cela étant, il faut évidemment qu'on regarde dans les violences intrafamiliales un autre élément qui est tout aussi important, c'est les violences faites aux enfants et les enfants qui sont souvent co-victimes de ces violences, qui assistent aux violences commises sur leur mère principalement, ou qui en sont eux-mêmes victimes au moment où les violences conjugales se déroulent. Donc pour revenir à la question que vous posez, puisque c'était en effet la journée du droit des femmes, et évidemment, le premier droit, c'est celui de ne pas être touché dans son intégrité physique. Alors, on a, j'allais dire, la différence par rapport à d'autres départements. On n'a pas de féminicide dans le département ou de d'homicide de femmes à déplorer. Mais nous faisons tout pour l'éviter. Et nous faisons tout pour faire en sorte que les auteurs qui soient dans cette situation de violence arrêtent, soient mis à l'écart, fassent l'objet d'une réponse pénale et soient ensuite accompagnés. Et donc, c'est un des travaux importants que nous menons cette année. C'est ce que nous appelons l'éviction des hommes violents. Quand une femme est battue à son domicile, pour être clair, que ce ne soit pas elle qui parte la nuit avec ou sans ses enfants et sans ses affaires, que ce soit l'homme violent qui parte. Pour ça, il faut qu'il soit hébergé. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il ne récidive pas non plus, donc qu'il ne commette plus ces violences.
Donc c'est un accompagnement en fait qui est proposé aussi. C'est un accompagnement, pardon, qui est proposé.
Oui, il faut s'occuper principalement de la femme, des enfants, mais il faut aussi s'occuper de l'auteur pour éviter qu'il ne recommence. Et donc on espère qu'en agissant là-dessus, on continuera à arrêter la croissance de ces chiffres et à les faire baisser. Et pour le reste, nous faisons en sorte de mieux accompagner les femmes qui sont victimes de violences dans nos brigades de gendarmerie, dans nos commissariats, et leur apporter tout l'accueil nécessaire.
Et par rapport à ces mineurs qui sont de plus en plus nombreux à être victimes de violences sexuelles, qu'est-ce qu'il est proposé ?
Alors le chiffre... Oui, le chiffre, il est dramatique. Hein. Ça a été vraiment un choc l'année dernière. 92%, c'est l'augmentation des violences sexuelles commises sur les mineurs. Et donc, sur ce chiffre-là, évidemment, il faut que nous puissions agir, même si nous avons une limite, hein, il faut en être conscient. C'est que la plupart de ces violences se commettent dans les foyers, au domicile. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience globale pour que ces violences arrêtent et que lorsque les enfants sont hélas victimes, ils puissent trouver refuge et que nous puissions évidemment les protéger au mieux. Donc ça fait partie, j'allais dire, des grands sujets de préoccupation et des travaux conséquents que nous allons tenter de mener avec cette petite limite qui fait que il faut que les adultes prennent conscience de cela et protègent leurs enfants.
Et est-ce que vous voyez avec soulagement s'éloigner les restrictions sanitaires parce qu'on sait qu'il y a eu une incidence, et notamment des confinements, sur les comportements ?
Alors, je pense que évidemment, nous sommes tous soulagés de pouvoir enfin nous apprêter à savourer des allègements de mesures sanitaires qui ne le seraient pas après 2 ans de restrictions. Évidemment, l'objectif était de pouvoir relever ces restrictions dès que la situation sanitaire le permettrait. Alors, la situation sanitaire, elle n'est pas totalement rose, comme vous l'avez souligné, puisque dans le département, nous continuons à avoir un taux d'incidence qui est largement supérieur à la moyenne régionale et nationale, excusez-moi, puisqu'on a un taux qui est encore de plus de 700, alors qu'il est de 500 à peu près au niveau national et un peu plus haut au niveau régional. Donc, ça veut dire que le virus, il continue de circuler un peu plus dans le département. Cela étant, il est réel qu'il est moins grave et qu'il fait moins de dégâts, si je puis dire, même si nous avons encore des personnes, nous en avons 2 qui sont encore en réanimation et 3 qui sont en soins critiques. Donc, les effets quand même d'allègement sur les hospitalisations, hein, qui durent par ailleurs 3 fois moins longtemps qu'avant, le nombre de décès qui s'amenuisent, d'hospitalisations Covid qui s'amenuisent, justifie l'allègement des mesures. Et donc, vous le savez, hein, à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus de port du masque, ni en intérieur, ni en extérieur, sauf port du masque dans les transports, et sauf port du masque et passe sanitaire dans les établissements hospitaliers. Il faut quand même qu'on ne reprenne pas totalement encore nos anciennes habitudes et qu'on maintienne un peu les gestes barrières.
Ça veut dire tout simplement quand même qu'on arrive aujourd'hui à vivre avec le coronavirus, c'est ce qu'on disait depuis 2020.
Je ne sais pas si on peut dire qu'on arrive à vivre avec le coronavirus, puisque moi je pense quand même auprès de 500 familles qui sont en deuil dans les Alpes-de-Haute-Provence aujourd'hui et qui, je pense, ont du mal à vivre avec le Covid qui les a frappés. Et je pense aussi aux personnes, comme je le disais, qui restent aujourd'hui en réanimation et qui, pour certaines, sont entre la vie et la mort. Donc je ne m'aventurerai pas à le qualifier ainsi. En tout cas, il est constaté que le nouveau variant, le dernier connu, Omicron, fait moins de dégâts que le Delta en termes de mortalité, en termes de durée d'hospitalisation, et que toutes les mesures qui ont été prises et les efforts faits par les bas alpins, que je tiens à saluer, finissent par payer et qu'on peut évidemment savourer le répit qui nous est donné, en espérant évidemment ne pas avoir de nouvelles vagues, mais ça, aucun de nous ne peut évidemment le dire. Donc oui, savourons, profitons-en, en ayant conscience que ça n'est pas totalement derrière nous encore.
Alors, dernier thème, Violaine Desmarais, la crise sanitaire aura aussi été l'occasion pour le gouvernement de mettre en place un plan de relance. Jean Castex, le Premier ministre, était interrogé par Alpe 1 samedi. Il l'a martelé, ce plan de relance, il n'est pas à destination uniquement des territoires, des grandes villes, j'allais dire, bien au contraire. Il a une vocation d'abord rurale.
Alors, il a une vocation rurale et le département des Alpes-de-Haute-Provence ne sont pas du tout passés à côté de ce plan de relance. Au contraire, elles en ont pleinement profité. Je vous donne deux chiffres. Le premier chiffre, c'est 800 millions. 800 millions d'euros, c'est le montant du plan de relance avec ce qu'on appelle les aides de soutien à la fois les projets qui ont pu être financés par ce plan dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, pour les particuliers aussi. Hein, les particuliers ont pu bénéficier notamment de MaPrimeRénov' pour des travaux de rénovation énergétique à leur domicile de plus de 5 millions d'euros. Bon, ce sont des sommes gigantesques. Et l'autre chiffre que je voudrais vous donner, c'est 8%. 8%, ça représente la part que les Alpes-de-Haute-Provence ont prise dans le plan de relance au niveau régional, alors qu'on ne représente que un peu plus de 2% du PIB. Donc on a beaucoup plus bénéficié du plan de relance que ce qu'on aurait pu y prétendre. Et c'est évidemment un très bon résultat, on peut s'en féliciter. On a sauvé des emplois, on a créé plus de 200 emplois grâce à ça. On a permis à des jeunes de trouver un emploi, plus tous les projets que les collectivités portaient et qu'on a pu soutenir. Et le Premier ministre lui-même d'ailleurs est venu montrer que même au plus profond fond de la ruralité du pays, notamment dans l'Ubaye, sur la fameuse route de la Rochaille au col de l'Arche, on était capable d'engager 8 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour faire de nos vallées et de nos cimes des lieux où on peut encore continuer à vivre, à traverser, à travailler avec un projet routier qui était bloqué depuis 30 ans. Donc oui, le plan de relance, il est pleinement dans le département actif et bénéficie à la ruralité.
Merci beaucoup, Violaine Desmarais, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.